Elles sont superbes, nos cartes suisses, parmi les plus réputées au monde, pour leur esthétique, pour leur précision. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et je vous propose une première balade pour vous conduire à la source de ce savoir-faire, en passant par le Palais fédéral et jusqu'au pied d'un Cervin miniature. Allons-y, c'est par là. Martin Rickenbacher, est-ce que vous pouvez nous dire sur la carte au 25e que j'ai pris exactement où nous sommes ici? Et puis pendant que vous la dépliez, je vous présente brièvement. Vous êtes ingénieur géomètre, topographe, collaborateur scientifique à SwissTopo, à l'Office fédéral de cartographie à Berne. Et puis vous avez publié de nombreux articles sur la cartographie, sur l'histoire de la cartographie en Suisse.
Oui, mais j'observe que vous avez pris la fausse carte. Sur la carte de lac du Bienne, et vous avez pris Mora. On est ici à peu près 500 mètres au sud-est du village de Valperswil.
Donc c'est au sud du lac de Bienne, direction Berne.
Oui, c'est au Grand Marais, disons la bord nord du Grand Marais.
Paysage très plat avec des champs autour de nous. On approche là d'un triangle comme ceux qu'on peut voir au sommet des montagnes pour signaler le sommet, en bois. Grand triangle de 5-10 mètres de haut. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui est né à cet endroit-là, à Valperswil?
C'est vraiment un point où on peut mémoriser le développement historique de la cartographie suisse. C'est un des points symboles où s'est manifestée la volonté des pionniers pour aller vers une cartographie suisse sur un niveau scientifique. C'était en 1791 où s'est rassemblé ici le professeur Tralles. Tralles qui était formé à Göttingen et qui était avec son meilleur élève, le Ferdinand Rudolf Hassler d'Aarau, pour mesurer une ligne de 13 km en direction du lac de Mora. Ligne de base qui formait l'échelle de la mensuration de l'époque.
Alors vous avez embarqué un livre avec vous où il y a une citation de Tralles qui exprime justement le néant cartographique suisse presque à cette époque-là. Donc c'est un ouvrage qui date de 1790. Aucun pays n'est plus déficient que la Suisse en matière de cartes topographiques. Et ce qui est assez curieux, plus elles sont modernes, pire elles sont.
Oui, ça c'est vraiment le point. C'était aussi les gens de l'époque qui ont remarqué. Tralles, il était membre de la Société économique de Berne. Et dans cette société, on savait que la topographie forme un des clés pour le futur développement de l'économie. Donc c'était, comme j'ai déjà mentionné, la Société économique de Berne qui a subventionné Tralles dans ses mesures à prendre vers une carte du canton de Berne. Mais le mandat officiel s'est venu 10 ans après dans la République helvétique. Il y avait vraiment des ministres qui ont réfléchi sur une mensuration nationale. Mais ici, c'est vraiment des racines à donner les idées que l'État pouvait s'engager et que c'est une des tâches de l'État de mensurer son terrain.
Quelle est leur méthode à Tralles et à Hassler?
La méthode centrale, c'était la méthode de triangulation.
Ils avaient une chaîne spéciale.
C'est une chaîne de 32 mètres et ils ont fait l'addition chaîne par chaîne par chaîne par chaîne. Et puis, ils ont eu 9 jours pour mesurer cette distance de 13 kilomètres.
Ils sont allés jusqu'au bord du lac de Mora?
Oui, finalement, c'était le lac qui les a arrêtés, parce que s'il n'y avait pas eu de lac, peut-être ils auraient encore continué. Ils ont commencé ici en visant une tour à Avenches qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce que c'est les forêts qui bordent le canal de Hagneck, qui était inexistant à l'époque. Donc c'était vraiment la plaine ici, et ils ont eu cette tour de Avenches qui était toujours leur moyen de trouver leur chemin, parce qu'il faut savoir, c'était une ligne qui était tout droite.
Alors je vous propose quelque chose, Martin Rickenbacher, on va rejouer le geste originel, l'acte fondateur de la cartographie précise en Suisse à l'aide d'une chaîne. Alors évidemment celle qu'on a ici, elle n'est pas conforme à celle de l'époque, mais on va faire comme si, et voilà, ça sera symboliquement le début de la cartographie suisse sérieuse. Donc je fais comme si j'étais Tralles. Vous, vous êtes mon élève Hassler.
Ouais. Ouais.
Je vous demande de partir à 30 mètres puis de me faire signe quand vous y êtes.
Ok, allons-y.
32 mètres. Hein. 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31.
Oui, j'estimerais, je suis ici à 30 mètres.
Voyager léger, léger.
On a rejoint la ville de Berne, Martin Rickenbacher, on est parti de chez vous, devant chez vous. On va parcourir ensemble quelques lieux emblématiques de la cartographie suisse, quelques traces qu'elle a laissées ici et là dans le temps.
On est au Martili-Berne,
le funiculaire.
C'est la liaison entre le Martili, quartier de la ville de Berne, et la ville.
On va s'élever là vers un haut lieu du pouvoir.
Oui.
Et ça sera l'occasion de discuter du pouvoir politique de la carte.
Oui, du pouvoir politique qui se manifeste la première fois en Suisse avec la carte du four, établie entre 1832 et 1865. Maintenant, un des objets qui sont représentés au Palais fédéral comme symbole de la création de la nation.
Ici au Palais fédéral, on est devant un mythe presque, Martin Rickenbacher.
On est devant la carte topographique de la Suisse au 100 000e, carte Dufour.
Le général Dufour.
Oui, c'est Guillaume-Henri Dufour, le général. C'est la première carte nationale qui couvre tout le territoire suisse qui a été produit sous mandat officiel.
4 mètres sur 3 à peu près, en noir et blanc, et puis avec les reliefs, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elles attendent, les autorités? Elles veulent asseoir leur identité, l'identité nationale?
C'est devenu après. Après que l'image était faite, après que la carte était exposée, elle avait la fonction supplémentaire comme identité nationale. Mais le but de Dufour, c'était d'établir une carte géométriquement correcte de tout le pays sans regard aux différences cantonales. Si on regarde, c'est l'unité qu'on regarde. On n'observe pas le canton de Berne, le canton d'Argovie, le canton de Zurich, le canton de Seyssin, vous ne le voyez pas au premier regard. C'est une image uniforme du pays. Dufour et ses ingénieurs, ils étaient aussi des autorités militaires de l'époque qui ont joué un rôle très important à la guerre du Sonderbund. Et c'est grâce aux actions militaires très bien réfléchies que la nation a pu être créée et la parallèle, c'est la carte, la création de la carte. Jusque-là, les montagnes, sur une carte, ils étaient nommés comme ça, sur l'autre, ils étaient nommés différemment. Donc, la carte du four, elle fixe pour la première fois la nomenclature officielle de la Suisse, avec ses noms de montagnes, avec ses noms de villes, avec ses noms de vallées, avec ses noms de rivières. Cette carte dit, c'est la Suisse, ça c'est notre pays. Espace 2, ya.
Oh là là, c'est magnifique ici. Alors, toutes ces maquettes du paysage alpin. Là, on navigue vraiment dans les vallées, dans les reliefs. Il y en a une quinzaine. Est-ce que ce lieu, le musée alpin de Berne, est un lieu important pour vous? Est-ce que vous avez une histoire avec lui?
Oui, oui, c'est une bonne question. Comme jeune homme de 15 ans, 16 ans, j'étais ici. J'étais très impressionné par ses reliefs, par ses cartes, par ses panoramas. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles je suis devenu topographe.
Il y a une maquette en particulier là qui attire mon regard, c'est celle du Cervin.
Et c'est une maquette qui a été produite par Xaver Imfeld, Il est né en 1853 à Sarnen, canton d'Obwald. Comme topographe privé, il a fait des modèles différents du paysage. Il a produit à peu près une trentaine de maquettes et à peu près une quarantaine de panoramas.
Et là, l'idée d'une maquette comme celle-là, elle, à peu près de notre taille, c'est de rendre accessibles les beautés du territoire aux touristes.
Oui, on peut ainsi dire, si la montagne, elle est plus petite que nous, c'est une espèce de domination de la montagne. Mais je peux m'imaginer que c'est vraiment la fascination de la montagne et le Cervin, c'est une montagne très spéciale, de mettre la nature de la montagne dans le relief, d'une manière que si on mettrait ici un arrière-plan bleu qui pourrait figurer le ciel, si vous faites une photo de cette maquette et vous la faites la comparaison avec la nature, vous voyez aucune différence.
Quand on voit des maquettes comme ça, on entend presque le petit train rouge qui passe.
Moi, j'entends les rivières et on entend de temps en temps des oiseaux. Mais pour le reste, moi, j'entends le silence ici. Mais c'est vrai que Imfeld, lui, il avait vraiment le projet de construire un chemin de fer pour monter au sommet du Cervin. Donc, votre idée d'écouter ce petit train rouge, c'est ça pas une idée qui est étrange?
Il y a quand même un parallèle assez clair entre l'idée que la carte ou la maquette permet un voyage immobile dans le paysage et l'idée d'offrir un sommet vertigineux de plus de 4000 mètres au plus grand nombre. Il y a une volonté là de créer des ponts entre l'homme et la nature.
Oui, surtout. Et lui, il a aussi fait des petits Cervins, vous savez, hein, il a popularisé vraiment le Cervin. Il a produit des presse-papiers sous forme de maquettes galvanisées dans une échelle du 50 millième à peu près. Et ça, c'était une grande popularisation de la nature, de la topographie.
Voilà, quelques marches qui nous permettent de voir la Suisse centrale, enfin la Suisse centrale, l'Oberland bernois, oui, d'en haut. Mm-hmm. On reconnaît les vallées, le lac de Thun, le lac de Brienz. Martin Rickenbacher, là, qu'est-ce que c'est cette maquette?
C'est la grande maquette de Simon Simon, créée vers 1900, qui représente tout l'Oberland bernois dans une échelle de 1 sur 10 000.
Elle fait à peu près 10 mètres sur 10 mètres. On voit le glacier d'Aletsch, là.
Oui, le glacier d'Aletsch, on voit Eigermönch-Jungfrau, là. On voit le Breithorn, on voit le Birchhorn, on voit la vallée de Lütschen, on voit la vallée de Grindelwald avec les deux glaciers, là.
Est-ce qu'il y a la volonté de mettre de l'ordre dans le paysage qui se manifeste dans la création de cette maquette?
Oui, moi je dirais, ça c'est une question très fascinante. Ça c'est vraiment une volonté de mettre de l'ordre dans un phénomène qui est trois-dimensionnel où on ne peut pas s'orienter du premier regard, de déchirer la complexité de la nature.
Donc ces maquettes, les plus vieilles datent d'il y a 200 ans, celle-ci d'il y a une centaine d'années. Grâce à elles, on peut s'approprier le paysage, le dompter quelque part. Comment on se l'imaginait avant d'avoir cette possibilité d'abstraction?
On avait peur des montagnes. Je dirais, c'était les topographes et les cartographes à faire une grande base pour gagner une image neutre des montagnes, mais quand même une image qui est aussi très fascinante parce que dans ces images-là, il y a la beauté des Alpes qui est représentée aussi.
On voit ici au-dessus de cette maquette des grandes peintures, c'est Hodler, hein,
c'est
si
Hodler,
je ne me trompe,
oui,
pas. À gauche, une série de peintures avec des alpinistes qui s'élèvent vers les sommets. Et puis à droite, alors là, c'est la chute catastrophique. Les topographes ont été des pionniers de l'alpinisme.
Oui, ils ont pris de risques vraiment. Il y avait des morts aussi. Par exemple, 1832 était mort le Gobat de Delémont qui a mesuré des angles sur le Sentis. Il avait un éclair et puis il était mort. Hein. Et il y avait beaucoup de premières ascensions dans les Alpes qui ont été faites par des topographes.
Aujourd'hui, les risques ont changé pour un topographe. On a plutôt le sentiment qu'il est assis derrière un ordinateur.
Non, on peut aussi dire que il y a toujours des risques dans le travail du topographe. Si vous devez conduire et lire la carte en même temps, ça, c'est pas sans risque. Hein.